seriez-vous surpris parce que vous ne saviez pas du tout que Dieu va vous dire, vous m'avez donné à manger, vous m'avez visité en prison, vous m'avez fait du bien et vous serez surpris de savoir que vous ne l'avez jamais fait. Oh oui, oui. Parce que la justice de Dieu nous rend capables, sans même comprendre ce qui se passe, de vivre pour Dieu et pour sa gloire. Et bien sûr, nous cherchons avec un grand désir de le faire. Où seriez-vous, serions-nous parmi ceux qui seront surpris quand Dieu a dit, vous ne m'avez jamais visité, vous ne m'avez jamais donné à boire, vous ne m'avez jamais donné à manger, du tout. La justice de soi regarde au bienfait qu'on a fait de soi-même et dit, Dieu doit être content avec moi. La justice de Dieu reçue dit, il n'y a rien en moi, mais tout est en Christ. Merci pour la lecture de ce passage qui nous fait penser. Si nous sommes en Christ, il va sourire favorablement sur nous, pas à cause de nous, à cause de Christ et sa justice, nous avons. Je vous invite de prendre vos Bibles et Actes chapitre. Enfin, j'ai dit chapitre 7, mais nous allons commencer par la lecture en Actes chapitre 6. Donc, je vous invite de prendre vos Bibles et de tourner en Actes chapitre 6. La dernière fois que nous étions en Actes des apôtres, nous avons vu certaines caractéristiques de cette personne qui s'appelle Étienne. Et nous n'allons pas les revoir aujourd'hui, mais il est marqué dans la Bible. Il était en verset 1, un homme rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse. Verset 5, rempli de foi. Et verset 8, où nous voulons commencer à lire, rempli aussi de grâce et de puissance. Waouh, quel homme! Quelle grâce, mieux à dire. Mais Étienne était comme ça. Verset 8, donc j'espère que vous avez vos Bibles. Si vous n'en avez pas, demandez à une personne à côté de vous de regarder avec lui. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges en plus. C'est la première fois que nous voyons quelqu'un hors de Jésus ou ses disciples qui va faire des prodiges ou des miracles. Philippe, c'est la deuxième personne dans le chapitre 8. Mais c'était quelqu'un qui faisait des grands miracles, apparemment assez régulièrement. Quelques membres de la synagogue dite affranchie, de celle des Cyréniens, de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, dont il y a un peu de débat, s'il y avait un seul synagogue, comme ça a l'air ici, singulier, là, ou plusieurs traductions, les, il y avait plein de synagogues quand même en Jérusalem. J'ai lu qu'il y avait peut-être autant que 400 différentes synagogues, chacun avec son petit truc. Si vous aviez 10 hommes, vous étiez privilégié de former une synagogue religieuse. Un peu comme en France. Si vous avez 3 personnes, vous pouvez démarrer une association culturelle. Appelez ça ce que vous voulez, certaines règles à garder suivant l'État. En Israël, pendant 16 ans, entre la destruction de la temple et le rebâtiment par Hérode, il y avait des synagogues partout. Il y avait plus que 10 familles normalement. Ils étaient au autorisé d'avoir un synagogue. Donc, dans une grande ville comme Jérusalem, il y avait littéralement des centaines de synagogues. Ça, c'était une surprise pour moi dans mes études ici, mais c'était le cas. Donc, est-ce que ça fait 5 ou 6 ou 7 différentes synagogues, des synagogues des hommes qui ont été libérés en Rome? Ça les affranchis étaient ceux qui étaient pendant des années tenus à Rome comme prisonniers puis libérés, et ils vivaient ensemble avec leur propre culture, chacun avec sa culture, même avec sa langue. Des Cyréniens, des Alexandrins, juifs de Sicilie, de Asie, tous des hellénistes, c'est-à-dire tous des juifs biologiquement, génétiquement, mais nés hors du pays et qui ne parlaient pas hébreu. Ils parlaient grec ou autre, mais ils ne parlaient pas hébreu. Ils avaient une autre culture, ils avaient une autre manière de voir certaines choses, des choses de base, ils croyaient tous ensemble. Mais ces personnes maintenant concernés sont des juifs hellénistes, des juifs non du pays, des juifs qui ne parlaient pas hébreu mais qui parlaient grec. Et puis ils se mirent à discuter avec Étienne. Verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. En se mettant en discussion avec ce petit diacre qui n'avait pas fait son institut biblique, comme beaucoup d'eux, la plupart d'eux, ils étaient absolument bouleversés par sa manière de répondre, la sagesse avec quoi il répond, le calme et le repos dans quoi il a répondu. Il ne pouvait pas. Il est très intéressant de savoir que sans doute l'apôtre Paul, Saul, était parmi ce groupe. Nous savons qu'il était parmi ceux qui terminaient par lapider Étienne à la fin. Et il était sans doute parmi ceux qui discutaient. Oh, j'aurais vraiment voulu être là pour entendre un débat entre Saul, qui deviendrait l'apôtre Paul, avec son intelligence, son intellect, sa formation, qui disputait avec Étienne, et donc à la fin, humblement, gracieusement, pointu quand même, correctement, Paul était obligé de fermer sa bouche, il n'avait plus à dire. Convaincant était cet homme. Mais il ne pouvait pas résister. Alors, si l'argument n'arrive pas à réussir, on peut toujours lancer de la boue. Et c'est ce qu'il faisait. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent, pays des témoins faux, si vous voulez. Nous avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Deux graves accusations. Nous avons vu cet homme, Étienne, désacrer la loi de Moïse et le temple de Dieu. Donc la parole de Dieu va être mise à côté à cause de Étienne, la maison de Dieu va être mise à côté d'après Étienne, ce qu'il disait, et nous l'avons entendu parler des blasphèmes. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Attention, le Sanhédrin était composé des juifs purs, des hébreux, des noms, il n'y en a aucun, autant que nous savons, aucun helléniste. Peut-être il y en a, mais pendant très longtemps, sans doute, il n'y avait que des hébreux. Sanhédrin, nous avons déjà vu maintes fois, n'est-ce pas, dans le livre de Actes, le groupe de 70 hommes qui a mis à mort le Seigneur Jésus-Christ. Le même groupe
qui avait battu les disciples après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, qui leur avait battu et qui leur avait emprisonné deux fois avec des menaces très féroces, que si vous continuez comme cela, ça va être vraiment pire. Alors ces hellénistes juifs amènent Étienne devant le Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Contre le lieu, le temple, contre la loi de Moïse. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, changera les coutumes que Moïse nous a données. Avait-il raison? Je me pose la question. Nous avons entendu dire que ce Jésus, ce Nazaréen, allait détruire ce lieu. Il allait être détruit. Allait changer les coutumes que Moïse nous a données. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Mais la manière qu'ils avaient présenté pour inciter les gens contre lui, c'était entièrement négatif, horrifique. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, attendant que le souverain sacrificateur laisse la parole à Étienne. Deux accusations si graves que cela a rendu la foule grand silence. Il regardait vers Étienne. Et qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait un visage qui parut comme celui d'un ange. À vous de deviner ce que ça doit dire. Mais ça me fait penser, et probablement ça ressemblait aussi à Moïse quand il descendait de la présence de Dieu sur la montagne avec une rayonnance sur son visage. Quelque chose comme cela, Étienne, dans la présence de Dieu. Et après un peu de silence, le souverain sacrificateur lui dit des choses. Est-ce que ces choses sont ainsi? Et ce que nous allons voir dans ce chapitre de 60 versets, alors, soyons honnêtes, mais si vous êtes comme moi pendant des années, ça c'est un chapitre que je lisais avec rapidité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a aucune chose que je n'avais pas déjà connue dans l'Ancien Testament. En plus, quand Étienne ouvre sa bouche pour parler, il n'y a aucun mot qui sorte de sa bouche quant à l'histoire de ce peuple juif qu'il ne connaissait pas déjà. Mais rappelez-vous leurs accusations, pour mettre tout en contexte. Leurs accusations, c'est que vous avez violé ce grand saint Moïse et la loi qu'il nous a donnée. Ils voyaient Moïse comme Dieu presque. Vous l'avez violé, cette personne est la loi de Dieu, parce qu'il représentait la loi de Dieu. Et encore aussi, peut-être pire pour certains, la maison de Dieu. Vous l'avez violé, vous l'avez traité comme rien, avec vos modernismes et votre théologie progressive pour vouloir changer, sortir de notre petite boîte religieuse conservateur. Vous avez violé la loi de Dieu, le lieu de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de pire? Rien de pire. Suivant eux. Et il va répondre suivant ce contexte. Il va parler de quatre différentes personnes. il va employer trois personnages très extraordinaires et dont eux, ils révéraient, vénéraient beaucoup, Abraham, Joseph, Moïse et David avec Salomon, pour viser les choses de la loi de Moïse, pour montrer, ce n'est pas moi qui viole la loi, c'est vous qui n'avez jamais arrêté de violer la loi de Moïse. Ce n'est pas moi qui viole la maison de Dieu, c'est vous qui avez entièrement déformé l'enseignement de la parole de Dieu par rapport à la maison de Dieu et emboîté Dieu dans votre petite boîte, insistant que Dieu reste là. Dans certains pays du monde, on dit, on est entièrement pour la liberté de la religion, à condition que vous gardez votre religion dans votre boîte. Dieu est libre, a la liberté de régner dans les cathédrales et dans les établissements créés exprès pour des cultes religieuses. Hors de ça, alors il n'a pas le droit. Et ça, c'est une mentalité. Cette mentalité est très humaine. Et les Juifs qui croyaient que c'est Dieu qui nous a choisis, c'est nous qui sommes les choisis plutôt, l'accent était sur eux-mêmes. Ils aimaient parler de eux-mêmes, ils aimaient parler de leur propre histoire, ils aimaient parler de leurs privilèges par rapport à toutes les autres nations. C'est nous qui ont les ordonnances de Dieu. C'est nous qui ont le seul bâtiment où Dieu habite dedans. Dieu se confine dedans d'après. Oui, bien sûr, Dieu est omniprésent, il n'y a personne qui nie cela, théoriquement, mais il vit dans le temple. Et pourtant, Étienne va démontrer clairement et nettement de leurs écritures qu'ils connaissaient par cœur qu'ils avaient entièrement déformé l'enseignement de la parole de Dieu. Et malheureusement, cette déformation leur rend aveugles dans un tunnel fait par les hommes pour qu'ils précipitent vers leur destruction, parce que non seulement est-ce qu'ils avaient tué les prophètes qui prophétisaient le changement, ils avaient tué Jésus, l'objet de ces prophéties. Et ce que je voudrais faire maintenant, donc, nous avons donc dans verset 1 à 8, Abraham, verset 9 à 16, Joseph, verset 17 à 41, Moïse, parce que Moïse figurait beaucoup dans leurs accusations contre lui, en trois étapes de 40 ans chacun. Et c'est Étienne qui fait cette distinction. Et puis, il va parler de Babylone, le résultat de leur idolâtrie qu'ils avaient insisté dessus. Et la plupart, et puis après, le temple de David. Et tout cela tourne autour de ces deux accusations. Et ce que je voulais que nous voyions. Et ce que je vais faire, Wilfried, peux-tu venir ici, s'il te plaît, et prendre ceci. Et je vais avancer petit à petit. Et chaque fois que quand j'arrive à 6, tu fais continuer. D'accord? Je voudrais que nous voyions tous ces... D'abord, on va lire verset 1 jusqu'à 10, jusqu'à 8. Est-ce que vrai, Étienne? Étienne répond. Ouvre des guillemets qui ne vont pas fermer avant verset 53. Étienne répond. Homme, frère, père, écoutez. Le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham. Qui c'est qui ne connaît pas Abraham? Quand? Lorsqu'il était en Mésopotamie. Avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays, la famille, et va dans le pays où je te montrerai. Abraham sortit du pays des Chaldéens, il s'établit à Charan,
De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays. Aucune propriété en ce pays. Soulignez cela dans votre tête, parce que, peut-être dans votre Bible aussi, parce que ça, c'est important pour eux. Le pays promis, on n'a pas parlé de ça, le temple promis. Il n'avait aucune propriété. Il lui avait promis, mais il n'y avait aucune propriété, pas même de quoi poser le pied. Par contre, il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité, après lui, quoi qu'il n'eût point d'enfant, de problème, pas de pays, pas d'enfant pour posséder le pays. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Abraham savait, quand il arriverait dans le pays, il n'allait jamais posséder le pays, ses fils n'allaient jamais posséder le pays, ce petit-fils n'allait jamais posséder le pays, et pendant 400 ans, personne ne posséderait le pays. Dieu n'est pas pressé. Nous voulons quelque chose en 4 minutes. 4 heures, c'est trop. 4 jours, c'est encore plus. Et parfois, c'est 4 ans, ou 2 fois, ou 3 fois, 4 ans. Mais Dieu va garder sa promesse. Et ce que Étienne est en train de souligner, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui prend chaque initiative que nous allons voir dans notre histoire. Il a annoncé à Abraham 400 ans avant ceux qui allaient rester en servitude. Verset 7, mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils vont sortir, et ils vont me servir dans ce lieu-ci. Et puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le huitième jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et ainsi de suite, Jacob, les 12 patriarches, finit avec la présentation d'Abraham qui n'a jamais possédé le pays, mais qui a eu contact avec Dieu, à qui Dieu lui avait parlé personnellement hors d'un pays promis. Prenons maintenant Joseph, verset 9. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vont dire pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donnait de la sagesse et lui fut trouvé grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison, la maison de Pharaon, où c'est en Égypte, hors du pays. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui du Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Alors Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Et il envoyait nos pères. C'est Étienne qui parle à ces gens qui écoutent avec les yeux fixes sur un visage qui parut être comme un ange. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu, pas la première fois. Pourquoi ça c'est important
a souligné. Ils auraient dû le reconnaître. Vos ancêtres, ils étaient pas des gens. La seconde fois, c'est Joseph qui fait reconnaître par ses frères. Par eux, Pharaon sut de quelle famille il était. Et puis Joseph a envoyé chercher son père, Jacob, et toute la famille composée de 75 personnes. Et Jacob descend en Égypte où il mourut, ainsi que nos pères. Ce n'était pas Joseph.
Ce n'était pas nos pères.
C'était son fils détesté par ses frères, qui, manipulé, si on pourrait le dire, par Dieu, arrange pour que Jacob passe le traumatisme de quitter ce pays où il cherche à s'établir, toujours dans une tente, pas dans une maison fixe, pour partir jusqu'à l'Égypte, où il va rester, où ses descendants vont rester pendant 400 ans, n'est-ce pas? Ils furent transportés en Shechem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent. La seule propriété matérielle qu'Abraham possédait, c'était ces deux sépulcres. Fini Joseph. Et entre Moïse, ce personnage contre qui Étienne avait fait des grandes erreurs, d'après eux, il va passer du temps avec Moïse pour souligner la réalité de la situation et non pas leur mentalité absolument obscurcie et pervertie. Le temps approché où devrait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham 400 ans avant. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Se multiplia jusqu'à 2 millions de personnes. Et ça s'est calculé par le nombre de personnes qui sont nommées après l'Exode, quand ils avaient compté toutes les personnes de l'âge militaire est serviable dans le temple. Si on estime avec modération tant d'enfants par famille, il y avait facilement 2 millions de personnes maintenant après 400 ans en Égypte. Alors, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ah oui, ce pharaon est parti, et plusieurs pharaons sont déjà partis. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita, exploitant donc nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Et puis, voilà la première phase de 40 ans de Moïse. À cette époque naquit Moïse. Il était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit. La fille du roi païen va maintenant éduquer, élever. Il n'y a aucun de vos pères qui peuvent le faire. Ça doit être un païen dans sa façon de adorer, dans sa façon de politesse, dans sa façon de culture. Elle va élever Moïse que vous vénérez. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Arrivé dans la deuxième phase, donc 40 ans chez Pharaon. 23, il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères les fils d'Israël. Il en vit un qui outrageait un autre et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. C'est-à-dire, il tuait l'Égyptien. Et on pourrait imaginer qu'il avait calculé, le temps arrive, Dieu m'a placé ici, je suis bien placé pour délivrer mon peuple. Le moment arrive, je cherche à créer un incident pour qu'ils comprennent, c'est le moment qui arrive. J'imagine Moïse avec toute son éducation, avec toute sa jeunesse, avec toute son éducation, qui se promène parmi les peuples qui ne savaient même pas lire, qui n'avaient aucune éducation, sauf ce qu'ils pouvaient avoir à la maison de des parents qui étaient riches par rapport à leur culture et leur croyance et leur connaissance de Dieu. Ils se promenaient, je suis là, je suis arrivé, vous devez vous prosterner devant moi parce que j'ai quitté le palais pour descendre vers vous. Oh, je vous aime bien sûr, mais je présume, et j'ai raison de présumer cela parce que regarde ce qui se passe. Et puis cette personne qui tuait cet Égyptien, et il pensait que ses frères allaient comprendre que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne compriront pas. Et le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme s'il se battait. Et il les exhortait à la paix. Et vous deux, vous êtes juifs, arrêtez de vous battre. Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa. On va voir ce mot encore tout à l'heure. Mais ce mot repousser est un mot très chargé. Et physiquement et émotionnellement. Il y a même une action physique. Il a dû repousser comme ça, physiquement, mais en même temps avec un air de mépris, de dédain, même de condescendance et de dégoût. Apparemment, il n'aimait pas ce type. Celui qui vivait et grandissait dans la palais du païen. Et puis, il disait, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Cette parole, Moïse prit la fuite. Petite parenthèse ici. Étienne parle aux gens qui vénéraient Moïse. Voilà votre leader. Charnel, égoïste, orgueilleux, incapable, dédaigné, dédaignable. Pas pour minimiser l'importance de Moïse, pour montrer que ce n'est pas Moïse. C'est Dieu qui fait tout, qui initie tout, qui contrôle tout, qui a son plan et son agenda, qui va prendre Moïse et utiliser Moïse pour lui. Mais Moïse n'est qu'un simple homme qui pensait être, quelqu'un a dit, le missionnaire de Dieu pour eux, et il terminait par être un meurtrier qui fuyait devant Pharaon. À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra deux fils, où il va rester encore 40 ans. Troisième étape, verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en fer. Et Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour en examiner, qu'est-ce qu'il entend? La voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac regardez, et le Seigneur parle. Et c'est très important de comprendre ceci, et pourquoi il était important pour Étienne qu'il écoute de nouveau ça. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est quoi? Est quoi? Une sainte terre. Il est dans Madian. Un peu loin de l'Égypte, mais pas dans le pays promis. Ah, Christ entend dans le troisième siècle, qui est très vénéré, très regardé comme un commentateur depuis presque le temps de Jésus, deuxième siècle plutôt, Christ entend disait, ce terre était plus saint que le lieu très saint dans le temple. Dans le sens que nous n'avons jamais entendu les mots de Dieu depuis le lieu très saint, mais Dieu parle dans un buisson en flamme dans le désert. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne, ce n'est pas le lieu. Nous avons une terrible mentalité, et je répète très souvent, même cette semaine dernière, dans quelques études avec quelques-uns de vous, vous n'avez pas laissé votre Bible à l'église la semaine dernière. Vous n'étiez pas à l'église à 168 avenue de la Payeur-Pessac la semaine dernière. Non, l'Église est venue à 162 visages de la manière. Et à la fin du culte, vous serez invité de rester manger, vous serez invité de participer dans la classe publique, vous serez invité, vous l'Église, de prendre part du dessert. Et à un moment donné, après dire au revoir à la dernière personne qui compose l'église, je vais fermer la porte à clé, et un bâtiment reste. La seule partie de l'église qui resterait sera en haut, ma femme et moi. Ce bâtiment n'est pas l'église. Ce bâtiment n'est pas saint. Il n'y a rien de sacré de ce bâtiment. C'est un lieu fonctionnel où l'Église, le corps de Christ, puisse venir. Il y a tant de personnes qui se précipitent vers la destruction parce qu'ils ne peuvent pas sortir de cette mentalité. Et ils pensent que quand ils entrent dans un lieu sacré, ils enlèvent le casquette et ils ont un air sombre et solennel et ils sont pieux parce qu'ils sont dans la maison de Dieu. Ils ne sont pas dans la maison de Dieu. Où est la maison de Dieu, s'il vous plaît? Étienne est en train de dire la maison de Dieu. Non, le temple en Jérusalem va assurément être remplacé jusqu'au point où son utilité n'existe plus. Oh, ça leur est rempli de rage. Plus besoin d'un temple. Le temple n'a jamais été la maison de Dieu. Mais ça, c'est pour plus tard. Il va souligner cela très fort. Dieu l'est bien en avance. Mais ôtez tes pieds parce que le lieu où tu te mets est une terre sainte. Il n'est pas dans le pays saint. Verset 3-4, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, je suis descendu pour le délivrer. Je suis, j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu. Et je t'enverrai, Moïse. C'est moi. Ça me concerne, c'est mes intérêts, c'est mon agenda, c'est mes intérêts qui sont importants. C'est intéressant les versets qui vont suivre maintenant. Ce Moïse que vous avez renié, vos pères avaient renié, et qui ont dit, qui t'a établi en juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef. et comme libérateur avec l'aide de l'ange. Avec l'aide de l'ange qui lui avait apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Alors, mets un petit cercle autour de 37 dans votre Bible, c'est la clé de tout ce chapitre. Moïse avait dit, ouvre les guillemets, presque, mot à mot presque, Dieu va vous susciter d'entre vos frères un prophète comme moi. Intéressant de voir que jusqu'à présent, Étienne n'a même pas nommé le nom de Jésus et il ne va pas nommer le nom de Jésus. Il va finir son message sans le faire. Mais il va nommer quand il parle à Jésus, à sa mort. Mais ils comprenaient parce qu'ils avaient déjà nommé le nom de Jésus en chapitre 6, n'est-ce pas? Ils avaient déjà parlé de ce Nazaréen qui s'appelle Jésus, que Étienne réclame être le remplaçant de tout ça. Non, on refuse, on refuse, on refuse. Un message merveilleux, un message convaincant, un message puissant avec la puissance du Saint-Esprit qui n'a rien fait pour adoucir les cœurs de ces gens. Ils étaient déterminés de ne pas sortir de leur boîte, peu importe ce qui sort de la bouche de cet homme rempli de sagesse, plein de l'Esprit de Dieu, qui avait un visage comme un ange. C'est lui, verset 38, qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, avec nos pères, c'est lui qui a reçu des oracles vivants pour nous donner. Nos pères, c'est gentil, merci. J'allais demander ça même au début, j'ai oublié. Nos pères, regardez 39, oulala, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Voilà le mot encore. Il le dégoûtait, il le repoussait, il le méprisait. Il le criait, tais-toi, va-t'en. Petit. Pour qu'ils puissent retourner où? Dans leur cœur, vers Égypte. Ils ne sont pas rentrés en Égypte. Mais s'ils n'avaient jamais la possibilité, ils l'auraient. La preuve, ça continue, verset 40, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, attention, c'est maintenant le Moïse, pas qu'il repousse, mais qu'ils avaient maintenant permis de le conduire hors d'Égypte. Ce type Moïse, il nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Fais-nous des dieux, fais-nous une vache d'or. Dans ce genre, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole. À l'idole. Attention, en cette époque d'Étienne, les Juifs jusqu'à maintenant, depuis Babylone jusqu'à maintenant, sont des monothéistes. Mais une bonne partie de leur histoire, ils étaient des polythéistes. Ils croyaient dans plein de dieux qu'ils avaient reçus en Assyrie, en Syrie, en d'autres pays, en Égypte et partout. Et il va leur rappeler de leur polythéisme quand il va dire vous avez fait un idole depuis le début, comme vous le faisiez déjà en Égypte, et vous vous êtes réjouis à l'œuvre de vos propres mains. Fin de la section de Moïse. Trois étapes, 40 ans en Égypte, 40 ans en Madian, 40 ans en tant que leader, plus souvent résisté que suivi et aimé. Hors du pays, Moïse n'est jamais lui-même entré dans le pays promis. Et maintenant, en conséquence de cela, versets 42 et 43, Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Ce sont des appellations de l'occultisme, de l'astrologie, de toutes les choses qu'ils avaient suivies avec un grand désir chez les païens. Dieu le livrait à ça. Selon qu'il avait écrit dans les prophètes, ouvrez les guillemets, m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert? Maison d'Israël, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Renfam, ces images, dieu des Assyriens, ces images que vous avez faites pour les adorer, et aussi vous transporterez je au-delà de Babylone. Hors du pays, pendant 70 ans, ils vont rester en Babylone avec les dieux qu'ils avaient emportés des autres pays pour être purifiés de leur polythéisme. Et nous ne disons jamais après la restauration de Israël qu'ils adoraient physiquement et ouvertement des autres dieux. Et pourtant, Étienne est en train de le rappeler de cela. Nos pères avaient au désert du tabernacle du témoignage. Alors maintenant, il va aller à la prochaine division David et Salomon. Mais il va quand même insérer deux versets ici, parce que maintenant il va quitter Moïse et la loi de Dieu pour parler du temple. Les deux, c'est-à-dire dans le premier, ils avaient violé la loi de Moïse sans arrêt, et maintenant ils allaient aussi montrer comment ils avaient entièrement mal compris volontairement le temple. Donc cette insertion du temps de Moïse encore ici avant de parler de David et le temple. Nos pères avaient au désir le tabernacle, le tente, portable, mobile, du témoignage. Ça montait, ça démontait, ça allait, ça transportait, ça s'arrête, ça remonte, ça démonte, ça allait, ça remonte, ça démonte. On avait ça dans le désert. Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et maintenant, et nos pères, l'ayant reçu, ils l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qu'il était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David, le deuxième roi en Israël. Et David trouva grâce devant Dieu. Il demanda d'élever d'une demeure pour le Dieu de Jacob. Mais c'était Salomon qui terminait par battre minuscule une, minuscule M, maison. Pourquoi je dis minuscule? Parce que, verset 48, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Quel prophète? Ésaïe 66. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit que le ciel est mon trône et la terre est mon marche-pied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos? Question rhétorique, mais c'est fou de penser comme ça. Comme vous pouvez emboîter le Seigneur dans un bâtiment, dans un lieu sacré, ou derrière une statue, entre guillemets, sacrée. Des statues sacrées n'existent pas. Des lieux sacrés n'existent pas. C'est Dieu qui fait sacré un lieu. Enlève tes souliers, Moïse, à côté de ce buisson, hors du pays, parce que je veux te parler. Et à cause de ma présence en ce moment, tu es sur la terre sainte. 50, n'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Qui êtes-vous de penser que vous pouvez faire une maison pour que j'habite dedans? Très intéressant que Salomon avait lui-même dit la même chose. Il avait parlé du fait que quand il construisait le bâtiment, ce maison ne peut pas te contenir, Dieu. Tu es trop vaste pour ça. Tu es omniprésent. Salomon avait compris, mais les gens après n'ont pas compris. Et malheureusement, Salomon avait aussi tordu beaucoup de choses à cause de sa moralité, plutôt immoralité. Alors, fin de ce point, mais pas fin de message intentionné, parce qu'il est interrompu, il ne peut pas continuer. Il allait sans doute continuer. Disons, fin de cette présentation historique. Maintenant, il va, c'est pas l'interruption encore, il va même appliquer aux gens contemporains. Quand ils entendent ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Non. Est-ce que je suis allé trop loin? Je voulais... Oh oui, verset 51, d'abord. Verset 51, c'est l'application, excusez-moi. Homme au cou raide. C'est une phrase que Moïse avait utilisée. Incirconcis de cœur et d'oreille. C'est une autre phrase que Moïse avait utilisée en Deutéronome. Ils étaient très fiers de leur rite de circoncision. Étienne leur dit, avec le visage d'un ange, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur d'oreille, vous vous opposez toujours ou pareillement au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Pareillement, rien n'a changé. » Mais vous ne lisez pas ça. Vous lisez les choses qui vénèrent une mémoire non réaliste d'une personne d'un lieu. Aucun lieu, aucune personne n'est sacrée. Mais il faut ne pas être raide pour comprendre cela. Il faut être circoncis du cœur et d'oreille pour comprendre cela, pour ne pas opposer le Saint-Esprit. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et vous avez livré maintenant, et dont vous avez été des meurtriers. C'est-à-dire vos pères, ils avaient tué ceux qui prophétisaient le saint et les justes, mais vous avez tué le saint et les justes. Qui, à qui partait le Sanhédrin? Pas juste le groupe de l'élite maintenant. Les 70 hommes qui avaient crucifié Jésus-Christ, qui avaient menacé et battu les 12 disciples, et maintenant, Étienne devant eux. Ils devraient maintenant avoir l'habitude, ils devraient maintenant dire, mais peut-être quand même il y a quelque chose. Mais il va dire, verset 53, vous avez reçu la loi d'après les commandements des anges, mais vous ne l'avez jamais gardée. Et il est accusé d'avoir violé la loi. Je veux que vous compreniez ici, et je répète ce que j'ai dit tout au début. Étienne n'a jamais dit une seule phrase qui n'était pas sortie de leurs écrits et qu'ils ne connaissaient pas déjà par cœur. Bien, bien, bien. La seule chose qu'il faisait, c'était de souligner. Souligner. C'est pour cela que je dis très souvent, ne gardez pas une Bible ouverte devant toi qui n'est pas marquée. C'est le soulignement qui enlève un passage de l'obscurité de pointe noire sur une page blanche. Ça enlève de l'unanimité. Quand tu regardes dans une Bible et tu traves, il y a un marque là, tu arrêtes sur la marque. Parce qu'il y a quelque chose dans ce verset qui n'est pas vu dans les autres peut-être autour. Et ils avaient étudié. Ils avaient mémorisé tout ce qui est absolument nécessaire et essentiel. Mais ils étaient autant dans les ténèbres que s'ils n'avaient jamais entendu. C'est pire. Et souvent, je vois ça ici à Pessac, à Bordeaux, en France, dans le monde, que les gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu ou de l'Évangile sont beaucoup plus réceptifs, ils sont comme ça, c'est vrai, que des personnes comme beaucoup de vous qui sont là, vous avez été inoculés contre l'Évangile, par l'Évangile. Je connais tout. Et même il y a des commentateurs qui disent Étienne n'était pas un bon prédicateur. Il ne disait que ce que tout le monde savait déjà. Ah si, il était un bon prédicateur. Il a fait une réaction. Il a souligné. C'est pour cela. Il n'a pas tout dit, mais il a souligné certaines choses. Et vous ne pouvez pas tout lire et vous ne pouvez pas tout mémoriser la Bible. Mais il y a certains passages que vous devez mémoriser. Et souligner, et méditer, et revenir, et revenir, et revenir avec réflexion. Parce que vous avez, et moi j'ai la même tendance, nous avons la même tendance, de créer une formule de loi et une formule de lieu. Derrière quoi on peut cacher tous nos désirs réels de nos cœurs. Parce que j'ai réalisé une formule. Dimanche matin, je suis toujours là. Réunion de prière, je suis là. Cette activité religieuse ou quoi, je le fais. Le reste, dans ma tête, des lieux, des activités, c'est moi. Pas de problème, la formule est en place. Et je préfère ça. Je préfère l'ambiguïté d'une activité et d'une connaissance distante de Dieu. Que de tous les jours, se mettre face à face avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je m'arrête? Qu'est-ce que tu veux que je change? On est ici pour changer. Tous les jours de notre vie, nous devrions chercher, changer dans l'image de Christ. Ça ne vient pas en suivant mécaniquement une formule. Ils ne l'ont pas compris. Mais ils ont saisi qu'ils ont été visés et durement visés. Et ils ne pouvaient plus. Voici le Sanhédrin. En entendant ces paroles, verset 54, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli de l'esprit, voyez le Dieu trinitaire merveilleux ici dans ce verset, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Un commentateur disait, c'est merveilleux. Il connaissait en verset 2 par le Dieu de gloire. Et pendant tout ce merveilleux message, ce Dieu de gloire est souligné. Souligner, c'est lui, vous n'avez rien fait. Et maintenant, il voit la gloire de ce Dieu de gloire Jésus debout à la droite du Père. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Eux, ils poussèrent alors de grands cris, se bouchaient les oreilles, se précipitèrent vers lui, et le traînant hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Qui avait dit ça? Jésus avait dit ça. Et puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Qui avait dit ça? Sur la croix, Jésus. Et après ces paroles, ah, c'est bien, il s'endort.